je rêvais jamais de faire le cinéma, et tout simplement comme je vivais dans dans un pays c'était mon rêve dès le début de faire le cinéma. Je voulais être médecin comme mon grand-père. Je voulais faire quelque chose d'utile, paisible, tranquille. Et du coup, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je faisais un peu de musique, je faisais de la peinture. Et finalement, j'ai abouti dans les maths. Moi, je pensais que c'est bourré de poésie, que c'est la méthode la plus efficace d'exister dans le monde en décrivant tous les phénomènes qui nous entourent en chiffres et en formules. Et finalement, j'ai découvert que dans le pays concret où je vivais, et peut-être dans d'autres pays aussi, ce métier était utilitaire et utilisé pour la guerre, pour la destruction, pour la saloperie, pour la merde. Ben voilà. J'étais un tout petit peu aidé par les conseils des grands mathématiciens qui m'ont expliqué à quoi ça sert, ce métier de mathématiques. Et là, j'ai vite abandonné ce truc-là et je cherchais le plus paisible où je pouvais me faire moins de dégâts, c'était le cinéma. Voilà. Et comme ça, je suis entré dans un domaine où j'imaginais même pas comment ça fonctionne, où j'ai découvert que ça aussi, ça servait à la destruction des âmes humaines, parce que c'était le cinéma de la propagande, qui était bourré de mensonges, où tous mes collègues ne gagnaient pas leur pain qu'en faisant en déformant la réalité, en cessant de penser. Mais il y avait une courte période en URSS, c'était quand Khrushchev a commencé à régler ses comptes avec Staline, comme ils étaient tous les deux tout à fait engagés ensemble dans la mafia communiste. Mais comme un était plus puissant et plus fort et plus violent que l'autre, après sa mort, Khrushchev a commencé à donner des coups de talon aux cadavres. Et là, les cinéastes, les écrivains et les peintres ont profité parce qu'ils nous ont laissés tout seuls à faire tout ce qu'on voulait. Bon, enfin, pas tout à fait tout ce qu'on voulait, mais dans les limites de possible. Et comme ça sont apparus les films quand il passe les cigognes, le film de Tchourlaï, la balade de soldats. Sont apparus les premiers films georgiens, tout à fait nonchalants, dans l'aspect de néo-réalisme, si vous voulez, italien. Et comme ça, on a eu la possibilité d'avoir un espoir de terminer nos cours de réalisateur, rentrer en Géorgie et servir à quelque chose. La coïncidence était qu'on a eu un des rares messieurs qui est devenu en tête de studio de Tbilissi, c'était monsieur Kveselava, qui a soutenu cette tendance-là. Et il a fait le bouclier entre nous et entre le pouvoir. Que personne ne se vante que par lui seul, il pouvait arriver de faire quelque chose dans cet immense camp de concentration qui était l'Union soviétique à l'époque. Ça veut dire qu'on était couvert par l'existence de conflits entre les fonctionnaires géorgiens et les fonctionnaires russes. Et cette contradiction nous a servi à comme une base à en profiter. Ça, on a réussi de faire quelque chose qui était qui satisfaisait les ambitions des pouvoirs en place locales et qui énervait le pouvoir en Russie. Mais après quelque temps, quand j'ai fait mes premiers films, ça satisfaisait plus personne, ni en Géorgie ni en Russie. Et ils ont petit à petit commencé à me pousser pour que j'abandonne ce métier. Et là que j'ai réussi, bon, de toute façon, je ne faisais pas de film pendant une huitième d'année. J'ai réussi de venir en France pour faire mon premier film. Mais j'ai jamais émigré, j'ai toujours resté. On ne quitte pas la Géorgie, c'est un pays tellement merveilleux qu'il n'y a, il n'y a pas la situation qui a poussé, par exemple, Tarkovsky à quitter la Russie. La Russie, c'est un pays froide, méchante, sans pitié. Un artiste comme lui, il ne pouvait pas exister dans ce pays-là, comme ça, il était obligé de la quitter. Moi, la Géorgie, oui, c'est comme la Grèce, c'est beaucoup plus. Si vous voulez, même pas, parce que les Grecs d'aujourd'hui, ils ne parlent pas le grec ancien, mais nous, on continue à parler la langue qui existait à l'époque de Homère. L'immobilisme géorgien s'est retourné contre nous parce qu'aujourd'hui, toute cette jeunesse contaminée par l'arrivée de la Coca-Cola et tout ce qui arrive avec, ils ont commencé à s'américaniser, quoi. Ça c'est le malheur qui arrive à plusieurs pays, je pense. Et personne n'est défendu contre cette vulgarité qui entre, et cette vulgarité, elle est produite par tous les déchets de la culture européenne qui sont partis aux États-Unis. Là, ils ont créé leur culture à la culture à leur façon, et ils les ont réexportés ici comme une marchandise. Marchandise spirituelle, si vous voulez.
C'est un petit peu, c'est pas la lumière fume, c'est la lumière aile. La contamination comme ça par le déchet, parce que et la lumière fume, c'est le village qui est englouti, qui disparaît petit à petit. C'est un peu ce qui se passe pour la Géorgie. Et d'après Brigand, on a l'impression que, c'est même pas on a l'impression, c'est ce qui va se passer à Paris demain.
Mais à Paris, ça a eu lieu déjà depuis longtemps. La destruction de comment de façon de vivre. Quand je suis venu ici, j'ai plus trouvé les traces de tout ce que j'imaginais. J'ai plus trouvé les cafés où je pouvais retrouver les gens nonchalants et rêveurs. Les gens, les intellectuels, vous savez qu'il reste le café Chimère, où il reste la closerie de Lila, où il reste quelques cafés sur Montmartre, mais tout est couvert partout, c'est indiqué qui était assis à telle ou telle table. Tout ce qui est sur les murs comme dessin ou les poésies écrites. Par enchantement de passer la soirée ensemble, tout est couvert de plastique pour que personne n'y touche. Et parmi tout ça, il y a les gens qui baffrent leur soupe sans se regarder dans les yeux. Alors c'est tout à fait triste. Désossé, il est disparu, la lune est disparue, alors tout ce qui était. Tout ce qui était l'image de ce Paris d'autrefois, fixé par Toulouse-Lautrec, ça va rester comme une légende, mais aujourd'hui il n'y a plus, il n'y a même pas. Vous savez que même à la belle époque, il y avait Mestinguett, il y avait des. des gens tout à fait formidables. Il y avait même il y avait Cocteau là, il y avait Éloire, il y avait des gens qui sortaient de chez eux dans la rue. Cette manière de sortir dans la rue était abandonnée par les Parisiens après le grand boom de la libération. Ils ont commencé à s'enfermer chez eux, et surtout la production de machines infernales comme télévision les a séparés tout à fait. Alors, il y a cette légende que chaque génération nie ce qui était fait, la méthode de vivre de la génération précédente, mais moi je pense que la rupture est considérable cette fois-ci. On a fait un petit film, peut-être pour les gens qui pensent comme nous.
Petit film, c'est bon. Parce que j'ai le sentiment quand même que dans Brigand, c'est pas l'éternel retour, mais c'est un peu la parabole comme ça de ce personnage qui est, on peut dire, sans domicile fixe. C'est très à la mode en ce moment, parce que malheureusement, ça court beaucoup les rues partout, à Paris et ailleurs, et qui rêve ou qui revient dans le passé et que se recule à chaque fois, que ce soit donc, je pense que c'est le 15e siècle, enfin, sur la ceinture de chasteté, que ce soit sous la nomenclatura ou la révolution, la mafia est partout. Donc c'est l'éternel retour et le monde s'est homogénéisé à ce point.
Oui, ce qui est bien à quoi je peux m'accrocher là en répondant, c'est que tout le monde est sans domicile fixe sur cette terre-là, ni dans le temps, ni sur le territoire. Et surtout aujourd'hui, quand les gens commencent à migrer de gauche à droite, d'un bout du monde partout, regardez le nombre de Chinois qui sont un peu partout dans le monde, à New York, à partir de New York, à Paris, à Los Angeles, à San Francisco, partout. Et les Russes qui ont commencé à bouger dès que ce putain de communisme s'est échoué, ils ont commencé à bouger parce qu'ils ont pillé leur pays chez eux pour avoir cette possibilité de bouger. Et ils sont un peu partout, ils règlent leurs comptes entre eux. C'est pas la même Russie qui existait avant l'intronisation de Nicolas II, qui a commis des conneries énormes en lâchant les brides. C'est l'aristocratie russe qui est responsable tout à fait de tout ce qui est arrivé à la Russie, parce que eux se reposaient sur les coussins tout à fait tranquillement. Et ils n'ont pas rempli les fonctions des gens qui sont responsables de fonctionnement d'un pays. Ce qui, par hasard, malgré tous les scandales et malgré tous les trucs bizarres et ridicules qui se passent en Angleterre, ce qui n'est pas le cas de l'aristocratie anglaise. Au moins, ils ont pendant la guerre, ils sont donnés à plein fort. Ils ont défendu leur pays, la miette qui est restée. Heureusement que cet empire, ils l'ont abandonné sagement, parce que c'est pas seulement les actions des partisans de Gandhi qui ont libéré l'Inde. Il y avait une décision sage des Anglais qu'on ne peut pas être possesseur d'un pays aussi raffiné et culturel comme l'Inde, et on ne peut pas l'exploiter à fond et se promener dessus. Là. Voilà. Ce qui est la question des communistes russes, c'est que Ils ont vraiment, pendant 70 ans d'existence de ce communisme, ils ont fait tout pour détruire le mental de leur propre peuple. Maintenant, on paye le résultat et peut-être c'est irrécupérable même.
On va revenir quand même à Brigand chapitre 7. C'est vrai que... Oui, non, ça c'est, on est en plein Brigand. Mais sous une forme peut-être un peu plus proche du film. C'est vrai que tu as construit ton film comme une fable grave, cruelle, amère, mais aussi burlesque.
Oui, parce que tout ce qui est grave et tout ce qui est dramatique, pour découper le cadavre, pour l'examiner la cause, pour savoir comment ça a fonctionné, ça devient froid, et la méthode dans le froid, c'est la comédie. Parce que la comédie, c'est jamais chaleureux, c'est toujours glacial. Et c'est comme scalpel qui découpe le corps. C'est vrai qu'on ne peut pas découper le corps vivant. Parce que le corps vivant, par exemple, aujourd'hui, c'est ce qui se passe à Rwanda. Ou le corps vivant, c'est ce qui se passe en Yougoslavie. En Algérie, surtout en Algérie. Le corps vivant, on ne peut pas faire l'analyse parce que la page n'est pas tournée encore. Mais dès que la page est tournée, on peut en tirer les conséquences. Et on peut faire la conclusion. Et la conclusion est toujours dans l'histoire de l'humanité, c'est comique. C'était la bêtise, c'était une erreur, c'était une folie. Et c'est propre à la méthode de la comédie.
C'est que là, on voit bien le médecin, celui qui a voulu être médecin à un moment donné, qui parle, parce qu'il y a quand même quelque chose de très analytique dans la démarche de ton film, qui est quand même très différente de ce qu'il y avait dans les films précédents, parce que dans Pastoral et dans Le Merle Chanteur, il y a quand même une critique, je dirais, ironique, douce, amère, tendre, alors que dans Brigand, on est carrément dans le grinçant et la cruauté, parce qu'on est dans le chaos et la barbarie. Le film commence quand même, à mon avis, en pleine barbarie. Ça saute de partout, ça tire de partout. Et en même temps, il y a des irruptions de choses parfaitement drôles dans la pire horreur. Par exemple, les armes qui vont tirer sur des bouteilles et qui ratent l'humain. Mais je dirais, dans le décalage entre les deux, il y a toujours l'humain qui est sauvé dans le film. Et en même temps, on est plus dans l'ironie d'où sa mère. La comédie, je pense à la séance de torture, c'est une des séquences les plus dures et les plus drôles que j'ai vues depuis bien longtemps.
Bon, entre parenthèses, quand vous avez le reflet des tortionnaires et quand vous avez la cuisine, comment ça se prépare, c'est beaucoup plus dur à voir qu'est-ce qui se prépare que voir la torture elle-même. Ça appartient à la méthode, là, si vous voulez. À la méthode de jamais montrer des actes de violence directement, mais plutôt de donner au spectateur la possibilité d'imaginer Qu'est-ce que va se faire avec ces instruments qui sont minutieusement préparés et passés par les hublots quelque part là. Mais ce période qui est décrit au milieu de ce film. Il était tout à fait terrible, tout à fait insupportable comme période pour les gens qui ont vécu à cette époque-là. Mais ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, nous, on pense que le malheur nous arrive justement aujourd'hui et que ça n'a jamais eu lieu à tel degré. Pourquoi on a fait ce film-là ? Pour rafraîchir le mémoire. Et pour dire que, écoutez, mes enfants, c'était toujours comme ça. C'était toujours comme ça, et ne pensez pas que vous vivez dans une période exceptionnelle. Et n'imaginez pas que c'est uniquement maintenant que le malheur, première fois, s'installe sur la surface de cette terre. Voilà.
C'est vrai que donc tu as tourné, pour filmer en Géorgie, et c'est vrai que on passe d'une histoire qui est assez régionale, et ton film tire vers l'universel. Parce que quand on sort de Brigand, chapitre 7, c'est notre réalité, c'est notre histoire qu'on raconte, et pas l'histoire de la Géorgie. C'est notre histoire à nous aussi.
Oui et non, parce que la Géorgie est malheureusement et heureusement tellement mal placée géographiquement. Elle est au croisement de tous les chemins. C'est-à-dire que les croisades pour la Géorgie, c'était la même chose que pour les chevaliers nordiques. Mais les Géorgiens ont su faire un truc très bizarre et inexplicable pour moi. Ils n'étaient jamais envahisseurs. Et s'ils sont allés à Jérusalem pour se battre contre les Sarrasins, ils sont allés là-bas uniquement pour défendre la tombe de Sauveur. Et pas pour piller, ce qui était le cas de tous les barons venus de tous les côtés, tous les vagabonds nommés barons après, venus de tous les coins de l'Europe. Là. Et quand les Français, les Francs, battus et humiliés sur la Terre Sainte, se sont sauvés, ils sont sauvés par la Géorgie. Parce que c'était un seul pays d'où ils pouvaient imaginer de rentrer chez eux. En arrivant en Géorgie, tous ces croisés, hein, ils y sont restés, la plupart. Ouais. Ils ont commencé à picoler, à boire, à passer bien. Finalement, non, mais de toute façon, vous voyez que, par exemple, le simple fait d'aujourd'hui qui peut prouver que nous, on a quelque part raison en traitant tous les aristocrates comme les descendants d'abord, je dois vous dire que moi, j'appartiens à une ancienne famille en Géorgie et je suis tout à fait conscient de ce que je dis. Alors, c'est pas un plouc qui vous raconte sur les aristocrates. Je les connais, hein, parfaitement bien. Alors, c'est que, par exemple, aujourd'hui, il y a des grands festins à Monaco. Hein? D'où ils sont venus, ces Grimaldi? On connaît parfaitement bien que c'était les moines, c'était les bandits déguisés en moines qui ont égorgé les propriétaires de Monte Carlo. Ça, on connaît parfaitement leur histoire, là. Mais eux, ils font l'air que c'était très bien. Et ça pèse pas sur leur épaule. Tout va bien, casino, parfaitement bien. Le petit îlot de paradis terrestre, dont le propriétaire est un grand seigneur. Tout ça, c'est tellement irresponsable, tellement ridicule que, évidemment, les communistes, ils ont créé leur aristocratie, leur nouvelle aristocratie. Évidemment, ils ont créé leur paradis et leur, si vous voulez, leur phalange là, à la Owen. Tout à fait tranquillement, ils ont créé. Mais ça, c'était pour eux. Mais tout ce monde-là était corrompu, était vendu, était à la merci de la situation, et était absolument malhonnête pour garder ce petit morceau de bonheur terrestre. Voilà de quoi il s'agit, en gros, si vous voulez, ce qui est la base idéologique de ce film que je vous propose. Évidemment, vous avez raison quand vous dites que c'était pas violent le cinéma que je faisais avant en Union soviétique, mais c'était pas violent jusqu'aux frontières de permis. Ça c'est pas si simple que ça, parce que je pouvais être violent, mais en espérant encore et encore, suis trompé, en espérant que ce film peut arriver jusqu'au spectateur. Là, c'était Mère Chanteur ou La Chute des Feuilles ou Pastoral, mais c'était le film sur, dont le fond était l'existence des brigands. Ils étaient tous à leur tour punis, interdits, filtrés, tout ce que vous voulez, ce qui finalement a abouti par le fait que j'étais obligé de venir faire mes premiers films français en France. Ce qui n'était pas facile non plus, parce que en France, j'ai découvert aussi bien qu'ailleurs l'existence de la censure. Excusez-moi, mais c'est comme ça.
Non, mais on le croit tout à fait. Mais justement, moi, par rapport, par exemple, je pense au maire chanteur et à Brigand, le rapport au temps. Je pense que justement, le fait que le personnage dans le maire chanteur arrive toujours en retard, qu'il soit déphasé, c'est un peu, tu vois, comme Mary Langdon ou Buster Keaton, c'est-à-dire des personnages qui sont inadaptés au monde. Dans le traitement du temps, dans le rapport au temps, on retrouve quelque chose qui... Bon, dans Brigand, c'est une parabole comme ça, on recule dans le temps pour que le clochard puisse s'évader du monde qui est autour de lui, enfin le SDF. Et je crois qu'il y a quelque chose de commun dans la confrontation avec le réel, c'est-à-dire que ce décalage dans le temps permet de se confronter et de faire la critique d'aujourd'hui. C'est intéressant, le personnage qu'il y a.
Oui, on est tous toujours en retard, là. Ou on imagine qu'on est toujours en retard. Oui. Peut-être tous nos ancêtres étaient à leur tour en retard aussi. Et peut-être tous les êtres humains sont en retard. Parce que, tout simplement parce qu'on connaît quelque chose, on a entendu parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est notre passé. Et on imagine que dans ce passé, on pouvait être autant. Parce que ce passé, on n'a pas vécu, et ce passé n'est pas à la portée de notre